au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Pourquoi quatre fois bonne année, Mathieu Tessier à la régie?
Parce que c'est moins que 2026 fois.
Ah, ça serait beaucoup de fois à le dire, puis on n'aurait peut-être pas assez d'une heure et demie pour le dire.
Effectivement.
Et ouais, voyons de ton côté, toi, notre ami Louis de Bernis.
Bonne année, meilleurs vœux.
Oui, quatre fois bonne année, pourquoi?
Quatre fois, parce qu'on va être en quatre fois meilleure santé que l'année dernière.
Ah, et puis toi, Daniel Rioux, qu'on rejoint à un petit peu du tour en Estrie, c'est ça?
Non, pas en Estrie. Hein, Seigneur, moins loin que ça. Je suis l'autre côté du fleuve.
Ah oui.
Je suis dans le studio avec vous, dans le vieux Boucherville.
Dans le vieux Boucherville. Ah,
oui,
OK, je suis désolé.
Oui.
Je mêle toujours.
Non.
Moi, je n'ai pas d'auto. Hein. C'est tout est très loin pour moi.
Tout est près de chez vous, finalement. Mais je souhaite une bonne année à tout le monde. Hein, et puis.
Quatre fois bonne année, tu penses pourquoi, toi?
Quatre fois bonne année, mon Dieu, quatre fois bonne année pour continuer à partager avec d'autres ce que je peux leur offrir.
Alors, moi, c'est ma réponse habituelle parce que quatre fois, c'est mieux qu'une seule fois.
C'est mieux qu'une fois bonne année. Ben, écoute donc.
Est-ce qu'on a pris des résolutions?
Non.
Non?
Non, pas vraiment.
Moi, j'étais assez content de mon année dernière. Donc, la même année, le même équilibre, ça me va bien.
Et puis toi, Mathieu?
Non, moi, j'en ai pris une en 1999. C'était de ne plus prendre de résolution et je la tiens.
Alors, c'est ça. J'ai décidé, moi, que de cette année, vous savez, hein, j'anime une émission ici, une balado, où on parle de sujets qui sont parfois, source de peur, de controverse, parce qu'on parle des sujets de la diversité sexuelle et de genre. Et depuis 2023, je me tape des commentaires sur les réseaux sociaux qui sont tout à fait inacceptables, même des menaces. Alors cette année, ma résolution, c'est que... Non, moi, je m'intéresse plus à ça. Je bloque systématiquement les personnes toxiques. Ça, c'est une bonne résolution. Mm-hmm. Alors, c'est un drôle de lendemain de veille aussi au Venezuela. Puis un peu partout dans le monde, on va en parler à l'émission tout à l'heure. D'abord, parlons du sommaire de l'émission et commençons par nos chroniqueurs et chroniqueuses. Bonne année encore une fois à toi, Daniel Rioux, parce que tu veux nous parler de la nouvelle année 2026.
Oui, d'une autre façon que de parler des résolutions. Vous savez qu'à chaque année, il y a des tendances. Hein?
Oui.
Donc, je vais vous parler des tendances qui, habituellement, nous font dépenser. Il y en a qui sont plus vulnérables à ce genre de dépenses-là. Donc, c'est les tendances qui peuvent vous faire dépenser en 2026 et peut-être que vous avez des ajustements à faire à la maison, je ne sais pas, dans vos vêtements.
Je ne changerai pas la couleur de mes vêtements pour la couleur de l'année.
Ben absolument pas, parce que l'an prochain, ça va être quelque chose d'autre.
Tout à fait. Puis,
à
ce moment-ci de l'année, la carte de crédit, elle n'a assez. Louis de Bernis dans l'insolite aujourd'hui.
On parlera, certains sont partis à l'autre bout du monde le mois dernier pour fêter la nouvelle année. Donc, on ira aux Philippines où un homme a eu de la chance, en fait. La vidéo est toute mignonne, un bébé poulpe, mais c'est un animal très dangereux. Je vous expliquerai pourquoi. Et puis, ce n'est peut-être pas pour cette année qu'on va encore être remplacé par les robots. Parce que pendant les vacances aussi aux États-Unis, il y a eu une grosse panne de courant qui a mis un sacré bazar dans les robots taxis. Vous savez, ces voitures qui avancent toutes seules sans conducteur. Eh bien, tout était bloqué à Los Angeles, à San Francisco.
Bon, peut-être qu'on va remplacer les animateurs de radio plus facilement. cela dit, donc, un sommaire intéressant. On va recevoir aujourd'hui Joanne Duc-Temps-Petit, qui est une artiste assez extraordinaire, qui va nous parler de son show, qui est une espèce de revival, de faire revivre Tina Turner, qui va être un spectacle donc, qui s'appelle Private Tina, qu'on va recevoir donc à l'émission. On va aussi parler de la pièce de théâtre de Gabriel Morin, qui est présentée au théâtre Denise Pelletier. Ça s'appelle « Merci d'être venu ». Et on parle d'un sujet qui est assez compliqué, assez tabou, donc de la santé mentale et le deuil. Et enfin, on va parler aussi avec Hugo Meunier. Ah, c'est pas un sujet, pas du tout des sujets jojo aujourd'hui. Hein. On va parler de son documentaire « 100 hommes prêts à coucher avec une femme endormie ». Donc, un documentaire qui voit si les viols de Mazan en France pourraient se reproduire ici, au Québec. Bon, je dépense un petit peu le temps, mais je peux vous dire qu'à la météo, le froid se poursuit. Ça va être froid comme ça dans le sud du Québec, au Québec, même dans les provinces atlantiques, jusqu'à mercredi, jeudi. Ça va, donc, on a un réchauffement là, qui s'en vient. Il y a un avis de tempête de neige dans la péninsule d'Avalon à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Donc, aujourd'hui, le maximum autour de moins 15 et le refroidissement éolien de moins 25. On parle même de moins 32 dans les provinces maritimes. Donc, mon chien Gustave ne sortira pas aujourd'hui. Avertissement de neige et de brune verglaçante dans le sud ontarien autour du point de congélation. C'est froid également dans les provinces de l'ouest. On parle de refroidissement éolien autour de moins 20. et de la des averses sur la côte ouest. On s'en va en musique.
Encore toujours pareil. Il pleut de l'eau de Javel. Ça fait de l'aquarelle. Sur les couleurs de la vie sans elle. Tout coule sur moi. Sur la douleur de la vie sans toi. Tout roule pour toi. J'suis comme un son que t'aurais pas, Shazam. Comme un condense mêlé mélodrame. Ça fait si mal que ça fait pas longtemps. J'suis comme ce son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un condense mêlé mélodrame. C'est donc la dernière fois qu'on se raccompagne.
Poche pleine, surtout sous les yeux. Babe, tu m'as fait trop de peine. J'ai même plus les yeux. Je t'ai dit, je t'aime.
Moi je suis venu pour l'amour, pas pour le tribunal. Je plaide coupable de toute façon. Y'a l'enfance dans l'équation. J'suis comme un son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un con dans ce mélodrame. Ça fait si mal que ça fait pas longtemps. Ce son que t'aurais pas, Shazam. Y'a ton odeur dans mon lit, dans mes draps. J'avais vraiment été ta valentine.
C'était This is it, Théodora qui chantait Mélodrama.
C'est le temps de la revue de presse. Alors, le Venezuela bascule, selon le Devoir, là, ce matin, dans l'inconnu. Après une opération militaire états-unienne à Caracas, le président Nicolas Maduro a été capturé et transféré à New York pour y être jugé. Si Donald Trump affirme vouloir diriger la transition, les experts consultés par le Devoir sont beaucoup plus sceptiques. Ils craignent qu'une occupation prolongée par les forces états-uniennes ne mène à une impasse, rappelant les précédents de l'Irak et de l'Afghanistan. Alors que la vice-présidente Delcy Rodriguez assure l'intérim sous la menace directe de la Maison-Blanche, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira d'urgence aujourd'hui pour discuter de cette violation majeure du droit international. L'arrestation d'ailleurs de Nicolas Maduro provoque des ondes de choc jusqu'à Ottawa, mais nos politiciens lisent-ils bien la situation? Dans la presse plus ce matin, Yves Boisvert écorche le chef conservateur Pierre Poilievre, qui s'est réjoui de la fin du socialisme, entre guillemets, dans une grille d'analyse jugée périmée par le chroniqueur. Pendant que le premier ministre Mark Carney en appelle timidement au respect du droit international, Boisvert prévient « L'administration états-unienne ne joue plus selon les anciennes règles. » En fait, j'ai même entendu ce matin un analyste français qui disait que les États-Unis étaient devenus un pays, un État mafieux, un État, en fait, voyou. En fait, c'est carrément les termes qu'il a utilisés. Il ne s'agit pas de restaurer la démocratie, mais bien de gérer directement les ressources pétrolières du pays. Cette nouvelle doctrine impérialiste qui lorgne déjà le Groenland devrait nous inquiéter. Comme le souligne l'ex-ambassadeur Bob Rae à l'ONU, le Canada doit réaliser que pour Donald Trump, la souveraineté de ses alliés n'est plus un acquis. Un message de peur envoyé au monde entier où aucun voisin n'est désormais à l'abri des ambitions des États-Unis. Un constat tragique ce matin dans les pages du Devoir. Les homicides conjugaux ont fait un bond inquiétant au pays. Alors que certains crimes liés aux gangs diminuent, le nombre de femmes tuées par leur partenaire ou leur ex-partenaire a explosé, passant de 53 à 81 victimes par an. Selon Statistique Canada, les femmes représentent plus de 80 % des victimes de ces drames, qui surviennent souvent au moment d'une rupture. Au Québec seulement, on a dénombré 12 de ces féminicides en 2024. Les experts rappellent que derrière ces chiffres se cachent des dynamiques de contrôle, de jalousie excessive qui continuent de hanter nos communautés d'un océan à l'autre. En éducation, l'année 2026 s'ouvre sous le signe de la rigueur, mais aussi d'un certain désir d'apaisement. Alors, dès ce matin, le vouvoiement devient obligatoire dans toutes les écoles du Québec. Les élèves devront désormais dire « vous », « madame » ou « monsieur » à l'ensemble du personnel scolaire sous peine de sanction. Parallèlement, la ministre Sonia Lebel semble vouloir donner un peu d'air au réseau. Elle envisage de réduire le nombre de bulletins annuels de 3 à 2 et confirme un probable report du nouveau programme de français pour ne pas, dit-elle, garrocher les enseignants. Toutefois, le climat reste tendu sur la laïcité. En plus de l'obligation pour les élèves d'avoir le visage découvert, l'interdiction des signes religieux s'étend maintenant à tout le personnel en contact avec les jeunes. La pression monte aussi dans l'enseignement supérieur. Si le projet de loi 9 est adopté, les cégeps et les universités devront fermer leurs locaux de prière d'ici septembre prochain. Un virage majeur qui, selon plusieurs observateurs, risque de compliquer davantage le recrutement de personnel dans un réseau déjà fragilisé. Au-delà des urgences bondées et des listes d'attente, le quotidien La Presse nous propose aujourd'hui un témoignage lumineux sur notre réseau de santé. À 86 ans, Robert Deschenaux, qui combat un sixième cancer, a choisi de briser le cynisme ambiant pour raconter ce qui va bien. Celui qui se décrit comme un miraculé tient à saluer la bienveillance et l'efficacité des équipes du CHUM. De son radio-oncologue à son infirmière pivot, M. Deschenaux souligne qu'il n'a jamais eu à se battre pour obtenir de l'aide, même face à un diagnostic terminal. Pour ce patient serein qui a déjà rempli sa demande d'aide médicale à mourir, le réseau québécois est avant tout porté par des humains passionnés, un filet de sécurité épatant, dit-il, qui assure une fin de vie digne et accompagnée. Rappel essentiel que derrière les défaillances du système, l'empathie et l'engagement restent bien vivants sur le terrain. Et puis, dans La Presse, série Visage et de résistance, on nous fait découvrir Sao Ichiwakawa, qui est une écrivaine qui secoue le Japon par sa plume. Atteinte de myopathie, elle dénonce le capacitisme d'une société qui a longtemps cherché à invisibiliser les personnes vivant avec un handicap. Dans son tout récent roman, La Bossue, Ichikawa expose sans détour les préjugés et l'histoire sombre de son pays, marquée par des décennies de lois eugénistes. Pour cette lauréate du prix prestigieux, voyons, l'écriture n'est pas seulement un refuge, mais c'est une arme pour exiger le respect des libertés civiles et briser les tabous entourant la division ou la diversité des corps.
Je suis ordinaire, j'ai rien de fou, mais quand tu me regardes, tout d'un coup je deviens génial. T'as ce pouvoir de me faire sentir extraordinaire et un peu fou, le plus drôle de la terre. Je me sens plus cool quand tu me regardes. T'as ce pouvoir de me faire sentir extraordinaire. Avec toi je me sens extraordinaire. Tu me fais sentir plus drôle, plus grand, plus moi-même. Comme si j'avais tout l'or du monde dans la tête. C'est toi qui fais que j'ai toujours confiance en moi-même. Comme si j'avais enfin trouvé ce qui manquait. Je suis ordinaire, j'ai rien de fou, mais quand tu me regardes, tout d'un coup je deviens génial. T'as ce pouvoir de me faire sentir extraordinaire. Avec toi je me sens extraordinaire. Tu me fais sentir plus drôle, plus grand, plus moi-même. Extraordinaire. Tu dis que je suis important. J'aimerais te dire que je comprends. J'aimerais te dire que je suis différent. Mais en vérité, ce que je ressens, c'est que j'ai beau être un peu mieux, avoir le sourire que je veux, si je te prête mes yeux, tu verrais pas le merveilleux. J'ai rien de fou, oh non.
J'suis pas le plus cool non plus. Mais j'ai ce pouvoir de te faire sentir, te faire sentir extraordinaire. T'es tellement belle et tu le sais à peine. Je me sens plus cool quand tu me regardes. T'as ce pouvoir de me faire sentir extraordinaire. Avec toi je me sens extraordinaire. Tu me fais sentir plus drôle, plus grand, plus moins.
C'était Fred et la chanson Extraordinaire.
Ah, ben on va dans l'extraordinaire, voir l'extraordinaire, Daniel. Hey, bonjour vous!
Bonjour vous, oui, c'est vrai, il faut dire vous en classe. Hein?
Ben oui. Ben ici, on peut dire ce qu'on veut, en autant qu'on demeure gentil et respectueux. Ça peut être tu, ça peut être toi, ça peut même être toi. Moi, ça me dérange pas, autant que ça soit dit gentiment. Bon, OK, on va arrêter ça.
Ça soit poli. ça pourrait être une tendance. Donc, c'est le sujet de ce matin.
Tout à fait. Allons-y, les tendances, oui.
Oui, on a des tendances polies pour le vous, mais on a des tendances qui peuvent nous faire dépenser en 2026. Et puis, Marie-Ève Fournier y a consacré un article le 28 décembre dernier. Alors, il y a une des entreprises qui est le mieux placée pour savoir ce qui nous fait vibrer et surtout dépenser, c'est Pinterest. Est-ce que vous y allez? Je ne sais pas. Mais on y retrouve...
Pas vraiment.
Pas vraiment, moi non plus. Non. On y retrouve des recettes, des designs d'armoires de cuisine, du bricolage pour les enfants, etc., etc. Et cette plateforme-là suit de manière évidemment assidue la popularité de chaque image. Et elle entre dans son moteur de recherche. Il y a des mots qui sont entrés dans son moteur de recherche plutôt par mois par 600 millions de personnes. Alors, c'est vous dire qu'il y a des gens qui sont vraiment intéressés ou qui basent leur quotidien là-dessus ou se trouvent des idées. Alors, même s'il faut toujours prendre des prédictions avec des pincettes, ben Pinterest, concernant les tendances 2026, ils ont piqué la curiosité de Marie-Ève Fournier. L'entreprise qui reçoit des milliards de requêtes chaque année soutient que 88 % de ses prédictions des 6 dernières années se sont concrétisées. Ce qui ressort de sa banque de données, d'ailleurs, de Pinterest, c'est que les gens recherchent le confort, l'authenticité et l'optimisme pour apaiser justement le tumulte constant du monde et des réseaux sociaux. Comme elle dit, rien d'étonnant, il suffit justement d'aller sur Facebook quelques minutes pour tomber sur des commentaires impolis ou désagréables qui nous donnent justement illico envie de prendre une tisane dans un bain moussant à la lavande. Ben, les entreprises qui trouveront le moyen de nous vendre du réconfort pourraient aussi faire des affaires d'or parce qu'on va s'approvisionner en quelque part. Donc, plus de la moitié des 55%, soit 55% des répondants à un sondage mené à travers le monde, considèrent le refuge émotionnel comme un besoin essentiel et ce, à leur quotidien. Et s'il y avait, d'ailleurs, elle le mentionne, s'il y avait des bouteilles remplies d'apaisement dans les pharmacies, ça se vendrait comme des petits pains chauds.
Ah, je serais client, c'est clair.
Ben, c'est sûr, on a besoin de s'apaiser, de se trouver un petit coin tranquille. Puis en attendant, ben, quoi de mieux qu'un souvenir agréable qui nous replonge justement dans l'insouciance de notre enfance pour se sentir mieux. Ben, c'est pas grand-chose. Hein. D'ailleurs, Pinterest le sait, le passé n'a jamais semblé aussi rassurant. La nostalgie, elle est tendance, donc. La question est se poser, est-ce que le prix des vieux films et des séries cultes d'une autre époque va bondir sur Marketplace plutôt? Est-ce qu'on va ressortir nos lecteurs VHS va-t-on utiliser aussi nos tourne-disques? Moi, personnellement, je peux vous dire que je travaille bénévolement dans une organisation, un magasin, une bouquinerie d'économie circulaire et les gens viennent chercher de vieux films, des micro-sillons et ça collectionne. Donc, on aime bien retourner dans le passé, c'est rassurant. Aussi, quand on parle de la cuisine, on risque davantage de se tourner vers des petits plats que cuisinaient nos mères. Hein? La nostalgie encore. Puis d'ailleurs, je vais vous en parler dans quelques minutes à la fin de deux personnes, Antoine Goulet et Philippe Diquet, qui sont deux Québécois qui ont publié récemment un livre de recettes nostalgie qui revisite justement 100 recettes de desserts rétro comme le gâteau forêt noire. Bon Dieu Seigneur, je bafouille. C'est manque d'entraînement, ça. Alors, je vous en parle dans quelques minutes. Bon, ben les épiceries, eux autres, et les restaurants devraient peut-être aussi mettre leur rôti de palette en vedette avec du chou. Ben, si vous voulez en manger du chou cette année, c'est le temps parce qu'on recherche des légumes santé. C'est ce que Pinterest a remarqué dans la recherche de recettes. Alors, le chou à toutes les façons, en ravioli, fermenté, sauté, rouge ou vert. Le chou connaît son heure de gloire en ce moment sur Pinterest. D'ailleurs, les gens recherchent beaucoup la recette d'une soupe polonaise une spécialité, la soupe Golubki. Et c'est parfait pour l'hiver. Puis d'ailleurs, la demande pour cette recette-là a bondi de 95% depuis le début de l'année. Mais là, si on regarde du côté des jeunes, les jeunes, eux, aiment bien ce qui est de la gélatine. Vous savez, tout ce qui est jujube, là. Des gommies, là, les petits oursons en jujube. Alors, il y a aussi à un point tel qu'ils se font des ongles à l'allure gélifiée. Des coques de téléphone pour qu'ils donnent envie de prendre une bouchée sucrée, donc ce qui revêt votre iPhone. Et les cellulaires, ou dans les magasins de bonbons, les ours en gelée sont partout. Ça va être partout en 2026.
Moi, je préfère certains jujubes, mais disons que ce n'est pas les mêmes jujubes.
Non. D'accord. Mais non, mais puis j'aime pas beaucoup les jujubes, ça prend des dents, puis moi, j'ai toujours peur de perdre un plombage. Alors, oublions ça. Mais aussi,
il y a d'autres façons de consommer ça.
C'est une façon de voir les choses. Alors, on va voir. Mais là, je vous amène dans le cirque, parce qu'il y a l'influence du cirque qui est un petit peu partout, dans la décoration comme dans la mode. D'ailleurs, j'avais remarqué chez IKEA, il y a quelques coussins style cirque. Alors, il y a beaucoup d'enfants, j'imagine, cette année qui vont se retrouver avec une chambre qui emprunte le thème du cirque, tandis que les adultes vont découvrir des plafonds à rayures rappelant les chapiteaux. Alors, Marie-Ève Fournier, elle mentionne, bon courage aux peintres qui vont se faire embaucher pour de tels projets. N'oubliez pas les rayures, hein? Donc les chapiteaux, etc. La journaliste Marie-Ève Fournier préfère l'engouement pour le rétro et plus particulièrement pour les jouets préférés des générations précédentes, dont la sienne. On pense au tourne-disque Fisher-Price rouge, qui aurait dû jamais passer de mode, selon elle. Et d'ailleurs, s'amuser avec son enfant tout en replongeant dans sa propre enfance avec un jouet de son époque, de son enfance, ben c'est une belle façon de retourner dans le passé et de faire connaître des souvenirs aussi. Puis d'ailleurs, dans ce que je vois, j'ai fait une petite recherche dans les vieux jouets, on a juste à penser aux poupées Barbie des années 50 et 60, les figurines Star Wars aussi. Il y a aussi toutes les cartes Pokémon qui sont rares actuellement, donc on peut retrouver. D'ailleurs, toujours dans ma boutique d'économie circulaire, c'est des objets qui sont recherchés et appréciés aussi. Il y a les grands-parents aussi qui peuvent peut-être penser à fouiller. Tu sais, on fait le ménage, ben quand ils trouvent des objets ou des objets rétro, vintage, ben sortez-le. Et puis c'est sûr que vous allez faire le bonheur des générations de vos ex-enfants devenus adultes et parents à leur tour. Il y a la lettre aussi, en 2026, c'est la lettre manuscrite, celle qu'on envoie par la poste avec un timbre. Et on dit dans Pinterest que les jeunes découvrent cette activité et l'adorent. Et j'ai fait une petite recherche justement à savoir pourquoi qu'on écrit, qu'est-ce que ça fait du bien, écrire à la main. Les bienfaits, c'est des bienfaits cognitifs parce qu'on améliore notre mémorisation et la compréhension. Ça réduit aussi le stress d'écrire à la main. Et ça crée, il y a de la créativité aussi, on peut faire un dessin, une fleur, il y a de la réflexion. C'est un style qui est libre, on fait jouer le stylo sur le papier. C'est aussi authentique et personnalisé, c'est mieux qu'un clavier. Et pendant qu'on était intéressé à écrire, pendant qu'on écrit avec le stylo, ben on est moins distrait et on est plus absorbé par ce que l'on écrit.
Ben, il faut se concentrer quand on écrit à la main.
Oui, absolument.
Parce qu'on ne peut pas retourner en arrière et effacer, parce que souvent, à moins d'avoir du petit liquide blanc, là, mais on s'est venu par ne pas être très, très beau. Hein.
Puis ça se demande si ça existe encore. Alors, puis il y a les broches aussi, les fameuses broches côté de mode maintenant, oui. 2026. Les broches sont omniprésentes chez les hommes. Elles seront accrochées sur les cravates, les vestons, les chaussettes et les chaussures. Pour les femmes, il y aura peut-être les colliers de perles éventuellement, les cristaux qui vont faire briller. des tenues, entre autres. Et on voit beaucoup de dentelles dans les magasins de vêtements pour cette année, au niveau des ceintures, des collants et aussi au niveau des articles de maison. Les couleurs en 2026, oui. côté mode, c'est le bleu glacé ou givré, une teinte pâle et froide qui s'invite au rayon du maquillage et même dans les cocktails. Vous savez, le fameux bleu sur les paupières des femmes à une certaine époque.
Oui.
J'ai vu une photo. Oh, ça donne un choc, mais ça peut être ça aussi la tendance cette année.
Et il n'y a pas Pantone là, qui nous a donné une couleur de l'année qui est une espèce de blanc... Je vais te laisser. Oui, vas-y.
Oui, ben le blanc aérien, justement, de Pantone et des gris chauds. Et le tout va nous rappeler aussi dans les côtés maison, dans les peintures, des tons naturels et apaisants qui nous rappellent la nature. Vert végétaux, bleu profond, brun terreux. Et puis, pour raviver la couleur, l'énergie, la lumière, le jaune, soleil, moutarde, orange, accompagné du blanc aérien en plus. On veut être inspiré par la nature et le bien-être. Alors, Pinterest a identifié 21 tendances qui gagnent en popularité en 2026. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, les tendances changent 4,4 fois plus vite qu'il y a 7 ans.
C'est une bonne nouvelle, ça?
Oui, oui, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui détestent la dentelle, le chou et le bleu glacial.
Parce que
c'est un désagrément qui est de courte durée. Donc, au yable, on peut vite passer à d'autres choses et puis vous peut-être passer à éviter de faire peindre la chambre de l'enfant avec un univers du cirque dans sa chambre à coucher. Je vous parlais de dessert et d'Antoine Goulet et Philippe Desquet. Alors, c'est la pièce de résistance en terminant.
Oui.
C'est un livre qui a paru il n'y a pas longtemps et on y offre des gâteaux, des souvenirs, des recettes de souvenirs, mais revisitées, dont le gâteau forêt noire à la bière. On a aussi, c'est des recettes très simples, on a aussi le biscuit Whippette, qui est une biscuit Graham surmonté d'une guimauve marbrée au chocolat qui se prépare en un tour de main. C'est une belle barre gourmande. C'est pas un livre de recettes qui se veut historique, mais je pense à ça, dans leur livre, ils ont le shortcake aux fraises avec le crème soda. Il y a du crème soda dedans, des pêtes de sœur qui forment une croûte de tarte,
ouais.
Et puis, écoutez, des grands-pères qui sont trempés dans le lait de poule. Mais leur pièce de résistance à Antoine, Philippe Desquet et Antoine Goulet, c'est le gâteau forêt noire à la bière, le gâteau forêt noire à la bière noire avec une confiture de cerise au kirsch et d'une crème fouettée au mascarpone.
Là, là, tous ceux et celles qui ont pris des résolutions de perdre du poids, on va pas les aider aujourd'hui avec ça. Hein?
Oui,
mais
pas n'importe qui a préfacé leur livre, c'est Jeannette Bertrand. Donc, Nostalgie sans recette rétro revisitée. Ce sont les tendances de cette année en 2026.
Mais bon, on va profiter d'une belle année 2026, c'est clair. Là, hein? ça sera, on va profiter de tout ça. Puis, c'est pas le mot magique, en modération. Merci beaucoup, Daniel.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Je vous rappelle qu'il va faire froid encore pour jusqu'à mercredi, donc habillez-vous chaudement. Après la pause, l'insolite avec Louis de Bernis et on reçoit Joanne Ducton, le petit qui va nous parler de Tina Turner. Ben oui, pourquoi pas, hein, la femme super énergique. Ben, je vous assure que la personne qui interprète Tina Turner l'est tout autant. À tout de suite.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
T'inquiète, t'es la plus belle, ouais, la plus belle de mon tel. Que parfois comme l'oseille tu t'en vas. Ce soir-là tu m'as laissé sans voix. Moi je veux une parisienne, parisienne qui traverse au feu vert, qui s'en fout de la tour Eiffel. Une parisienne, parisienne qui traverse au feu vert, qui s'en fout de la tour Eiffel.
C'est la Warano à tes têtes. Tu fais pas partie de la Cora. Elle aime les mecs en ce plat. Avec de l'aura, tu l'auras. Champs-Élysées, balade vers les Champs-Élysées. Bébé, les bancs m'ont localisé. Prends le volant, je suis alcoolisé. Elle active les lumières tamisées. Elle active les lumières tamisées. Avec moi quand c'était la misère. Tu veux du sérieux, pas s'amuser. Ma parisienne, elle veut moi aussi. Elle est tombée du ciel, elle est canon comme pas possible.
Moi je veux une parisienne, parisienne qui traverse au feu vert, qui
Tour Eiffel, Avenue Montaigne. Rien de personnel, mais trop de professionnel. Ça me lâche pas d'une semelle. Ça va couper, j'ai l'excuse du tunnel. Numéro uno, encore cette semaine. Parfois, comme l'oseille, tu t'en vas. Ce soir-là, tu m'as laissé sans voix. Moi, je veux une Parisienne. Parisienne qui traverse au feu vert, qui s'en fout de la Tour Eiffel. Une Parisienne, Parisienne qui traverse au feu vert, qui s'en fout de la Tour Eiffel.
Ce soir, j'ai oublié, on sort les gros billets, appelle les bons billets, bon billet, mon billet. Et ce soir, j'ai oublié, on sort les gros billets, appelle les bons billets, bon billet, mon billet. J'ai dit ce soir, j'ai oublié. Papa, on sort les gros billets, maman, appelle les pompiers, ton billet, mon billet.
C'était Gims et Lamano 1.9 qui chantaient La Parisienne.
Ben, La Parisienne, il lui a passé un petit peu de temps à Paris, Louis de Bernis. Bonjour, vous, parce qu'il faut dire vous, on est en 2026.
Bonjour, Denis Martin, comment allez-vous?
Ouais, on va dire toi, moi j'ai de la misère avec le vous, je trouve que ça fait tellement de distance. Puis on est une radio sérieuse, mais on n'est pas une radio... coincé. Mm-hmm. Alors allons-y, on est dans l'insolite aujourd'hui.
Oui.
Les Philippines.
Oui, on va aux Philippines. Vous connaissez peut-être l'expression, je l'entends parfois ici et là, tout ce qui est petit est mignon. Eh bien, il faut s'en méfier. Vous avez un petit chien
oui,
qui est mignon.
Oui, puis je peux vous dire que j'en avais un autre avant mm-hmm. qui était toute petite comme lui, toute mignonne. Mais quand je l'ai... Elle a attrapé un écureuil, elle l'a égorgé, elle me l'a donné par la suite. Alors, c'était pas très mignon.
Bon, ben voilà, les petits animaux, il faut s'en méfier parfois. Je vous parle d'un petit animal aux Philippines, un petit poulpe.
Ah!
Le poulpe à anneaux bleus, il a beau sembler mignon, sa morsure est pourtant l'une des plus redoutables au monde.
Ah bon?
Et c'est ce qu'a failli apprendre à ses dépens un journaliste britannique récemment. Andy McConnell explique avoir vécu une rencontre fortuite avec la mort, tout simplement. À l'origine, l'interaction avec un petit poulpe au reflet bleuté, croisé sur une plage des Philippines, n'aurait dû être qu'un souvenir de vacances parmi tant d'autres. Il avait pris soin de filmer la scène même, c'était le 10 décembre dernier, le mois dernier, et de la poster sur Instagram. Avec le recul, les images sont assez glaçantes. Sans le savoir, eh ben le globe-trotteur britannique était tout simplement en train de jouer avec sa vie. La vidéo le montre, on peut la voir, je l'ai vue hier, en train de s'amuser avec cette petite pieuvre miniature qui glisse à plusieurs reprises entre ses doigts. « Regardez ça, ce bébé poulpe est magnifique !» s'exclame-t-il devant un groupe d'enfants. Visiblement, les enfants tout aussi inconscients des risques que lui à ce moment-là. Le bébé en question était en fait une terreur que les Philippins avisés fuient comme la peste. Le poulpe à anneaux bleus est tout simplement l'un des animaux les plus dangereux au monde. Son venin, qui est à base de tétrodotoxine, c'est jusqu'à 100 fois plus toxique que le cyanure, est mortel et n'a pas d'antidote à ce jour.
Oh.
Oui. Une seule morsure, tenez-vous bien, contient une quantité de poison suffisante pour tuer l'équivalent de 26 personnes en 3 minutes. On parle de quelque chose de très très agressif donc. Ce poulpe redoutable tire son nom des anneaux bleus qui apparaissent sur sa peau lorsqu'il se sent stressé ou menacé. C'est souvent le signe annonciateur d'une attaque. En ignorant le danger, Andy McConnell n'a pas paniqué et n'a donc pas fait de geste brusque. Indirectement, c'est peut-être ce qui l'a sauvé en fait, en étant émerveillé devant cette petite chose de la nature. En quelques jours, en tout cas, la vidéo est devenue virale, a suscité d'innombrables commentaires. Certains écrivaient « Je n'arrive pas à croire que tu es encore en vie, tu as une chance incroyable ». D'autres lui lançaient « Incroyable aussi que les enfants autour, les enfants du coin, les locaux, ne sachent pas que c'était dangereux. Peut-être n'ont-ils pas encore été éduqués par leurs parents à ce sujet ». Et un dernier s'est étonné, avec malice, l'ignorance est parfois une bénédiction.
Ouf.
En tout cas, si vous vous promenez dans des pays exotiques et que vous voyez des petits animaux aux couleurs chatoyantes, il faut parfois se méfier aussi.
Faut arrêter de penser que tout se passe comme dans un film de Disney.
Exactement.
Mais morale de ce soir, par contre, si vous voyez mon chien, il n'y a pas de danger. Il va vous sauter dessus, mais pour vous lécher le visage.
Magnifique.
Alors, on s'en va aux États-Unis.
Oui, aux États-Unis, un constat peut-être rassurant pour nous en ce début d'année. Visiblement, ça n'est pas pour cette année qu'on va être remplacés tous par des robots, parce qu'ils ont parfois du mal, les robots, quand tout ne va pas comme c'est programmé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à San Francisco, une panne de courant a plongé, c'était samedi 20 décembre, une bonne partie de la ville dans le noir. Les coupures ont débuté vers 13h ce jour-là et ont atteint leur pic environ 2 heures plus tard. Elles ont non seulement perturbé le quotidien de 130 000 habitants, mais aussi, et c'est ça qui est pas mal ressorti sur les réseaux sociaux, elles ont perturbé le fonctionnement des taxis autonomes de la société Waymo. Vous savez, c'est ces taxis sans conducteur dans lesquels on embarque, ces voitures autonomes qui vous emmènent là où vous voulez.
En espérant que tant que le petit truc, là, ce qu'on appelle le meter, là, que ça n'a pas continué tout le long qu'on attendait. Hein?
Non. Ces véhicules autonomes de la filiale d'Alphabet circulent habituellement sans conducteur. Mais là, ce qui a posé problème, comme on l'imagine, c'est qu'il n'y avait plus aucun feu de circulation qui fonctionnait. Tout était dans le noir. Et donc, tous les taxis étaient désorientés tout d'un coup et se sont arrêtés, tout simplement. Ils s'arrêtaient en plein milieu de la route, témoigne un habitant cité par des journalistes, et de nombreuses vidéos ont tourné aussi. Plusieurs passants ont filmé ces scènes. En plein milieu d'intersection, par exemple, on voyait plusieurs taxis les uns derrière les autres arrêtés, provoquant de longues files de conducteurs excédés derrière eux. Ils étaient en fait incapables d'analyser les informations reçues dans leur environnement et ne pouvaient pas repartir. L'ampleur de la coupure de courant a mené à des situations où nos véhicules sont restés arrêtés plus longtemps que d'habitude. Cela a contribué à des embouteillages et nous sommes désolés. Les employés se sont donc précipités partout en ville pour aller récupérer les taxis, les ramener au centre et avec une aide humaine, les raccompagner. Tout ça, heureusement, est rentré dans l'ordre assez rapidement. Dès le lendemain, les taxis pouvaient à nouveau fonctionner. Mais c'est un peu rassurant de se dire que dans une telle situation, les taxis ne venaient pas fous à foncer n'importe où et à créer des accidents. Ils s'arrêtaient, ils ne se mettaient pas vraiment sur le côté. Donc il y a des vidéos dans lesquelles on voit 4, 5, 6 taxis derrière les uns et les autres et des conducteurs humains derrière eux assez mécontents.
Oh là 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 là. Bon, en tout cas, on ne vous remplacera pas, on ne te remplacera pas.
Par Merci. Machine.
À la semaine prochaine.
Avec plaisir.
Alors là, je vais vous dire tout de suite, ce n'est pas Tina Turner qu'on entend, mais c'est une interprétation de la grande diva. Puis d'ailleurs, on reçoit justement la personne, l'interprète qu'on vient d'entendre, l'artiste dont l'énergie est tout simplement contagieuse. Comédienne que l'on voit partout à la télé, elle est aussi une bête de scène, je peux vous le dire, parce que je l'ai vue, et qui fait revivre la légende Tina Turner. Hey, bonjour, Joanne, du temps petit.
Mais bonjour, M. Chabot.
Appelez-moi Denis, ça va, Denis Martin. Parce que j'aime bien le « tu », même si on nous dit que ça doit être le « vous », ça va être à l'école seulement.
Ah oui.
Je trouve que... on est une radio sérieuse, mais on n'est pas coincé.
D'accord. Bonjour, Denis Martin.
Allô. Hey, Joanne, 2023, tu as joué. Je vais commencer là parce que oui. C'est là que je t'ai vu sur scène,
oui.
Sans le savoir. Tu étais dans la comédie musicale Hair. Qu'est-ce que ça t'a appris, cette expérience, sur toi et ta voix?
Ah, bien, c'est vraiment cette expérience-là qui m'a donné vraiment confiance en ma voix. Mm-hmm. Parce que ça faisait des années que j'auditionnais pour les comédies musicales de Juste pour rire ou d'autres projets professionnels. J'étais toujours comme à la limite d'être choisie, jamais être choisie. Puis quand j'ai été choisie, je disais « OK, Joanne, fais-toi plus confiance. S'ils t'ont choisie, c'est parce que tu chantes bien. Donc, tu dois te faire confiance au niveau du chant. »
Et c'est... surtout d'être dirigée par Denoncourt. Oh,
ça a été une superbe expérience. Vraiment, ça a été une des plus belles expériences de ma vie.
Alors, est-ce que ça, là, l'énergie, parce que là, on va se le dire, je l'ai vu, Hair, puis je pourrais raconter plein de choses qui m'est arrivé là.
Oui.
Je suis toujours la personne qu'on choisit sur qui on va s'amuser un peu. Bon, pour ceux qui veulent le savoir, il y a un type pendant quand on rentre en
à
scène,
l'entrée,
il y a,
au début du spectacle,
il y a
oui.
un des comédiens qui se promène à moitié habillé puis qui vient taquiner et c'est moi qui ai choisi.
Oui.
Et j'ai eu le droit à une vue très très proche de tout son attribut sexuel.
Ah.
Est-ce que l'énergie brute, on va retourner sur le spectacle, est-ce que l'énergie brute de ce genre de spectacle, c'est ça qui t'a donné l'envie de te lancer toi-même dans tes propres projets?
Pas du tout.
Non?
Non, c'est vraiment qu'est-ce qui m'a amené justement au projet de Tina Turner?
Oui.
C'est quelques jours après que j'aie commencé la comédie musicale Hair, j'ai été contactée par un band amateur pour chanter de la musique des années 80-90.
Ah bon?
Oui, c'est comme ça que ça a commencé l'aventure de Tina Turner. Et puis ça, c'était quoi, je crois, fin 2000, l'été 2023 environ?
À peu près, oui.
Exact. Et là, puis j'ai toujours voulu être chanteuse soliste, ça faisait partie d'un de mes rêves de chanter, mais j'ai jamais eu le courage de le faire. Et lorsqu'il ils m'ont contacté, j'ai dit pourquoi pas, je me lance. Surtout que j'avais commencé à faire Hair, donc j'avais plus confiance en moi. Et lui, en parlant au monde autour de lui, il y a des gens qui ont dit « Hey, penses-tu que ta chanteuse peut faire du Tina Turner? » Parce que ça faisait quelques mois qu'elle était décédée. Et là, j'étais comme « Oh my God, je pense pas. » Mais comme que je suis une fille de défi, j'adore les défis dans la vie, j'ai dit « Ok, je vais essayer. » Et je me suis pratiquée avec une chanson, j'ai auditionné et c'est comme ça que ça a commencé. Après, j'ai fait un premier spectacle avec ce band-là dans un bar sur la Rive-Sud. C'était mon premier spectacle. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je n'avais pas la perruque de Tina Turner. J'avais juste quelques costumes et les gens, ils ont capoté. Avec même pas la perruque, même pas tous les costumes, les gens ont dit « Oh mon Dieu, j'ai vu Tina sur scène! » Et c'est là que je me suis dit « Joanne, il faut que tu fonces. » Produit quelque chose de professionnel. Alors, j'ai décidé d'engager des musiciens professionnels, de m'enregistrer en tant qu'entreprise et de me lancer dans cette aventure.
Il y a une anecdote que j'aimerais que tu me racontes, parce
oui.
que Tina Turner, c'est quelqu'un que tu connaissais, mais parce que, bon, on a une différence d'âge, tous les deux. Alors, moi, j'ai vu Tina Turner
oui.
Au Centre Bell il y a plusieurs années de ça, et j'ai été très impressionnée. Mais toi, ton père te dit « Ah, fais-tu venir voir Tina Turner?
Oui. »
Qu'est-ce que t'as répondu?
Quand j'avais 10 ans, mon père m'avait demandé « S'attends-tu d'aller voir Tina Turner? » J'ai dit « Non. » Puis c'est pas que... Parce qu'à cet âge-là, oui, il y avait les chansons qu'on entendait à la radio, mais c'était pas considéré... Pour moi, c'était pas dans mes chanteuses préférées.
Alors, qu'est-ce qui t'a amené là?
Mais comme j'ai dit, c'est vraiment...
Ça, mais tu as découvert oui. donc cet univers. Mais c'est quoi que tu as découvert à Tina Turner qui a fait que, OK, là, j'embarque là-dedans?
Bien, déjà, son histoire. Je connaissais son histoire aussi.
Oui.
J'avais vu son film à
pour
l'adolescence.
Pour ça, avant qu'elle ait été victime oui. de violences conjugales.
Vraiment.
Ah oui, puis c'est quelqu'un qui... C'est une survivante, c'est une résiliente.
Puis aussi, ce qui... tout d'abord aussi, c'est une femme noire qui a traversé plusieurs époques
oui.
au niveau, par exemple, la ségrégation, qui a peut-être même un peu connu l'esclavage, mais qui a vu plein de choses, qui a vécu plein de choses. Puis pour moi, c'est un modèle, cette femme-là. Même quand je l'ai vue à l'adolescence, pas quand j'avais 10 ans, je la connaissais pas beaucoup, mais quand j'ai vu le film, j'ai fait « Oh, OK, c'est elle, Tina Turner. » Donc, ça, c'est une femme qui m'a impressionnée et qui m'a fait « Wow, elle est incroyable. »
D'une femme à une autre femme.
Oui,
oui,
d'une autre femme et aussi d'une femme noire. Moi-même, en
oui.
tant que femme noire, en tant qu'artiste, des fois, on se dit « Bon, est-ce que tu sais, c'est difficile? » On doute de ce que... On doute de notre possibilité de réussir, souvent à cause de notre couleur de peau. Donc, c'est vraiment quelque chose qui... Quand je la regarde, Tina Turner, c'est pour moi, c'est l'espoir, c'est la force, c'est la persévérance. Et c'est la preuve dans la vie qu'il ne faut jamais abandonner.
Alors, le spectacle s'appelle Private Tina.
Oui.
Moi, j'ai vu un avant-goût de ta performance dans un événement caritatif.
Oui.
Et wow! C'est beaucoup d'énergie. Comment tu fais, là? Parce qu'il faut que tu gardes ça pendant tout le spectacle, là.
Oh oui, c'est beaucoup
parce
d'énergie.
Parce que Tina fait pas rien que chanter, elle danse.
Ah, des fois, je me dis, pourquoi j'ai décidé de faire Tina Turner? J'aurais pas pu prendre Whitney Houston à la place.
Ça aurait été un défi de voix, mais je pense que tu n'aurais pas eu ce problème-là. Mais Tina, elle a une histoire qui est importante, comme
oui.
tu viens de le dire aussi.
Oui, exact. Son histoire est importante, mais sur scène aussi, elle a une énergie de feu. Puisque à force de regarder des reportages, quand j'ai commencé à faire ce projet-là de Private Tina, c'est ce que je me rends compte, c'est que Tina, elle a une passion sur scène. C'est pour ça qu'elle a cette énergie-là sur scène, parce qu'elle en mange. C'est sa vie danser, c'est sa vie être sur scène, chanter. Tu le sens, tu la vois quand elle est en spectacle. Elle adore ça.
Puis moi, ce que je vais dire aux gens, parce que c'est important, moi, je ne suis pas de ceux qui aiment voir des imitations. Et ce que j'ai vu de toi, c'est une incarnation ou une interprétation de Tina Turner. Alors, qu'est-ce que... Parce qu'on ne va pas voir Tina, mais on va voir toi, comment tu perçois.
Exactement. Dans le fond, à la base, moi, je suis comédienne dans la vie. Donc, quand j'ai commencé ce projet-là aussi, j'ai regardé tout ce qui se faisait dans le monde des projets, des hommages à Tina Turner. Et ce qui m'avait marqué, c'est, oui, ils ont les costumes, la perruque, la voix, mais je ne voyais pas nécessairement Tina au niveau de son âme sur scène. Mm-hmm. Puis moi, en tant que comédienne, c'est ce que j'ai voulu amener avec ce projet-là pour qu'il fait la différence de tout ce qui existe déjà sur le marché. C'est vraiment de devenir, pas nécessairement dans tous les aspects Tina Turner, mais c'est de ressentir qui elle est. Comme ça, quand je ressens qui elle est sur scène, c'est plus facile de la voir aussi sur scène.
Et de nous le faire ressentir
aussi. Et voilà.
Maintenant, tu fais cette... En fait, avant d'aller, il y a beaucoup de ce qu'on appelle les shows de revival, ou de faire revivre Goldman. Je pense qu'il y en avait 5 de ces... J'en ai vu un ici à Montréal qui était fort réussi, mais j'en ai vu à Paris. À un moment donné, ça devient un peu... répétitif. Alors, comment tu vas faire, toi, pour être capable de dire, non, moi, mon show, il est vraiment spécial?
Bien, c'est ça. Moi, je mise sur mon talent de comédienne.
Oui.
Ça, c'est vraiment ma force comparativement à tout ce qui existe sur le marché. Comme plusieurs personnes qui ont vu mon spectacle, qui ont vu Tina Turner en spectacle, ils m'ont dit à la fin du spectacle, « Joanne, tu étais Tina sur scène, j'ai vu Tina, j'ai pleuré.
Oui.
Tu m'as rappelé des souvenirs, tu m'as rappelé des moments. » Donc, c'est ça que vraiment je mise sur l'énergie, bien sûr, de Tina Turner.
Ton énergie.
Oui, mon énergie à moi. Et aussi, c'est vraiment de vraiment ressentir la joie de vivre sur scène parce que c'est ce qu'elle était. En la voyant sur scène, tu le vois qu'elle tripe.
Ah oui.
Plus profond de son âme, ça la fait vibrer être sur scène.
J'étais à 5 rangées de elle.
Ah!
Je peux te le dire que... Oui, parce que je suis un fan, évidemment. Hein?
Oui.
Donc, tu as fondé les productions JDP, j'imagine,
exact.
Pour Joanne Duc-Tempetit. Pourquoi?
Bien, c'est parce que, justement, pour vendre mon spectacle, c'était Joanne qui vendait mon spectacle ou qui essayait de faire venir du public, surtout que je ne suis pas connue dans le milieu, je trouvais que peut-être que ça allait faire moins professionnel. Tandis que quand ça fait les productions JDP présentent Private Tina...
Ah.
Les gens font « Ouh, OK, il prend plus mon projet au sérieux. »
Ouais.
Puis moi, c'est ce que je veux. Je veux que montrer aux gens que c'est... Oui, c'est un projet que je fais moi-même, seul, sans aide de personne, mais ce projet-là est quand même très professionnel.
Bon, tu as dit que tu étais comédienne.
Oui.
Je vais retourner à ça, mais il faut aussi, quand on joue Tina Turner, il faut danser.
Oui!
Est-ce que tu étais danseuse ou tu as dû apprendre?
À vrai dire, j'ai ça dans le sang, là, Denis.
Ben là, toi, tu peux le dire, mais pas moi.
Ouais, je sais. C'est pour ça que je l'ai dit. Mais aussi, tu sais, j'ai pris des cours de ballet classique pendant 5 ans quand j'étais petite. La danse, ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai une photo de moi qu'on voit que je chante. Je me souviens toujours, j'avais 5 ans. Puis je sais chanter une chanson de Michael Jackson. Fait que ça a toujours été fait partie de ma vie. En tant que femme haïtienne aussi, les Haïtiens, on danse toujours. Il y a chaque fête, chaque événement, c'est toujours une occasion pour danser. Donc, la danse a toujours fait partie de ma vie.
Bon, maintenant, tu es comédienne.
Oui.
J'aimerais rappeler qu'on te voit. Moi, quand je t'ai vu... quand je t'ai vu la première fois, c'était dans une vidéo pour Maison Plein Cœur, on n'a pas la nommer, qui est en campagne de financement, on peut le rappeler.
Oui.
Et quand je t'ai vu, je disais, ah oui, je connais cette comédienne-là, parce que tu as joué dans plusieurs séries.
Oui.
Est-ce qu'on peut parler des sorcières?
Les sorcières, oui, ça fait longtemps. Oui, j'ai fait... Bien, c'est tous des petits rôles. Tu sais, j'ai pas eu des rôles importants. J'ai pas fait de rôles, par exemple, que j'étais à récurrence.
Non.
Mais j'ai eu quelques premiers rôles quand même dans des séries.
Oui.
J'ai fait une pub récemment que vous avez peut-être entendu dans le cadre du Bye Bye.
Oui.
Oui, Les Raves du Québec.
Ah, ben oui, c'était toi.
Sors le sirop.
Je me demande... Ben, là, tu viens de me prendre par surprise. Ben oui, puis j'ai voté d'ailleurs pour cette pub.
Ah
pour
oui,
cette...
Ah, merci! Je vous jure, à la maison, j'ai pas payé Denis pour ça.
Non, mais c'était vraiment le fun.
Oui.
Et vraiment, puis j'aimais beaucoup l'idée d'avoir une femme de couleur, une femme noire qui chante.
Oui. Sans le sirop. Ah. Puis en plus, pour vrai, le sirop d'érable, c'est ma vie. J'adore le sirop d'érable. Donc, puis c'est ma première publicité à vie que j'obtiens après 20 ans d'essai.
Wow.
Et quand je l'ai eu, je disais, oh mon Dieu, c'est la vie, elle est faite pour moi. Il fallait que je le fasse parce qu'en plus, le sirop d'érable, pour vrai, je capote là-dessus.
Bon, là, je vais vous dire, pour ceux qui ont, vous ne nous voyez pas, puis quelqu'un qui mange du sirop d'érable, là, c'est vraiment choquant parce qu'elle n'a pas la taille de quelqu'un qui mange beaucoup de sirop d'érable.
Ben, je fais attention à mon sirop d'érable parce que ça coûte tellement cher que je garde mon inventaire. Je fais attention. Là.
On est en train de créer une nouvelle tradition haïtienne de sirop d'érable. Bon, hey, Joanne, c'était un plaisir de te recevoir. On peut-tu rappeler d'abord les dates du spectacle Private China?
Donc, les prochaines dates, enfin, il y a trois dates qui s'en viennent, dont le 30 janvier à Jonquière, donc les gens de Jonquière.
Oui,
allô?
Nous écoutent aussi, oui.
Yeah! Et le 15 février à l'Espace Saint-Denis au Studio Cabaret. Donc, soyez là, je vous attends en grand nombre, ça va être écœurant, surtout si vous ne connaissez pas la salle, il y a de la projection, ça fait vraiment différent des autres spectacles que je fais. Mm-hmm. Et on a aussi le 20 février au Rouge Steakhouse à Repentigny.
Et pour ceux qui veulent de l'information, ils vont où?
Sur le site www.lesproductionsjdp.com. Et si tu veux, Denis, je pourrais te partager un code promo pour Montréal qui donne 20$ de rabais jusqu'au 15 janvier.
Envoie-moi ça, on va le mettre en ligne.
Parfait.
Envoie-moi ça dès que tu peux, parce que nous, on s'est parlé par courriel et par texto.
D'accord.
Joanne Ductant, petit, vraiment un plaisir de t'avoir reçu à l'émission.
Merci
aujourd'hui.
À vous. Merci de m'avoir reçu. Au revoir.
Entends? Carré. Ça, je suis en mode gros. Je suis en mode. Yo, les gens, qu'on va zing à mon bébé. Dis à mon bébé. Yo, les gens, t'es pas zing à mon bébé. Dis à mon bébé. Que te la perche, tiens le truc, maintenant qu'est-ce qu'il y a? Qui t'a plus grosse que ton baby? J'ai peiné dans la zone, je l'ai pas évité. J'suis pour la bien, pour la bien, évité. On se connaît à peine, elle veut fermer les volets. Dès le premier date, t'as fait déjà la folie. Fais pas s'attacher, elle sait que je vais déconner. Comme dans ma cour, tout ce que tu veux, je vais payer. J'dis d'espagnol, donc je parle en hola. Bébé, t'es à moi. Et la seule, je les connais, c'est des petits. Ah, bébé, t'inquiète pas, story, faut éviter. Ah, faut pas s'afficher. Savent pas que Renata son bébé. Dans ma tête j'ai déjà mon bébé. Ah ça c'est mon bébé. Y'a que moi qui sais c'est qui mon bébé. J'te l'ai dit c'est mon bébé. J'aime pas trop quand on parle sur mon bébé. C'est la seule qui m'a aidé. Y'a que moi qui sais c'est qui mon bébé. J'te l'ai dit c'est mon bébé. Tu me laisses pas sinon qui va t'épauler. Si ça bête, je vais bientôt décoller. J'avoue, je suis bête, quelquefois j'ai déconné. Elle m'a dit RN, faudrait que t'arrêtes de sonner. Doucement, tu sais qu'on a tout le temps. J'ai quitté mon ex, elle est pas comme toi. Elle sait qu'on a tout, elle est pas contente. Fou pipi, elle, mais c'est pas comme toi. J'ai échoué, donc je refais une deuxième fois. Comme s'il faut claquer mes dalles. Et tu restes, la copine avait un contrat. Pas la sauter sans qu'elle story, faut éviter. Ça c'est mon bébé, y'a que moi qui sais c'est qui mon bébé. J'te l'ai dit c'est mon bébé. J'aime pas trop quand on parle sur mon bébé. C'est la seule qui m'a aidé. Y'a que moi qui sais c'est qui mon bébé. J'te l'ai dit c'est mon bébé. Ça c'est mon bébé. Y'a que moi qui sais c'est qui mon bébé. J'te l'ai dit c'est mon bébé.
Ben oui, j'étais en train de parler au téléphone, moi. C'était la chanson... Excusez-moi, je suis un peu perdu dans mes documents.
Attends, je vais reprendre ça. C'est ma faute. On était en train d'essayer de contacter notre prochain invité entre-temps. Ah. Alors, c'était là...
Mon bébé de R.N. Roy.
Bon, ah, écoute, on est là, nous, on n'a pas vu qu'on était en onde. Alors, c'est un cri du cœur que lance Elsa Chouinard dans un reportage de Radio-Canada ce matin. En 2026, l'accès au logement demeure un combat de tous les instants pour les personnes en situation de handicap. À matin, cette diplômée universitaire active est contrainte de vivre chez ses parents, faute de trouver un appartement dont les comptoirs ou la salle de bain sont réellement adaptés à sa réalité. Le cas d'Elsa illustre une rigidité administrative dénoncée par plusieurs. Même lorsqu'un logement est dit adapté, il ne répond pas aux besoins spécifiques de chaque handicap. Et les offices d'habitation refusent souvent les modifications mineures. En Gaspésie, la crise du logement atteint un seuil critique. On assiste d'ailleurs à un paradoxe aberrant. Des organismes disposent de subventions pour aider les locataires, mais l'argent dort dans les coffres parce qu'il n'y a tout simplement aucun appartement disponible sur le marché. Avec le gel des programmes gouvernementaux de rénovation par Québec, le droit fondamental à l'habitation et à l'autonomie semble, plus que jamais, être un luxe inaccessible dans l'est de la province. J'ai le temps de vous parler d'une nouvelle en Haïti. Bien, une célébration de fin d'année destinée aux personnes en situation de handicap a tourné au chaos. En effet, ce qui devait être une journée de partage et de solidarité au bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes en situation de handicap a été gâchée par des incidents violents. Tout avait pourtant bien commencé. Mardi 30 décembre, le secrétaire d'État Gérard Joseph avait organisé une activité culturelle et humanitaire pour environ 1000 bénéficiaires au programme musique, distribution de soupe et de kits alimentaires. Mais l'événement a rapidement été victime de son succès. Au lieu de 1000 personnes attendues, 3000 sont présentées. Évidemment, ça crée une pénurie. Puis il y a des personnes qui en ont profité, des individus qu'on dit mal intentionnés, qui auraient profité de la situation, de la frustration de la foule pour semer le trouble. Donc, des tentes, des chaises ont été incendiées dans des cours des bâtiments, causant des dégâts matériaux importants. Alors, la déclaration, c'est que la division, lorsqu'elle est alimentée par des intérêts mesquins, n'engendre que la destruction, dit donc Gérard Joseph, fin de la citation. Après la pause, donc, on va parler de théâtre et on va aussi parler de documentaire sur les viols de Mazan. En fait, comment ça pourrait se produire ici au Québec si c'était proposé. On vous revient après la pause.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Le temps de chasser les orages, je perds le sens de ton plus grand voyage. J'essaie d'attraper les lueurs qu'il reste de ce que tu es. Quand la garde baisse et les cris s'enchaînent comme les éclairs que tu me lances en SOS, les cris reviennent sur terre. Mais tu ne me laisses pas entrer dans ton château de sable. Les murs suissent pour se détruire à la moindre rafale. Mais je sais qu'au fond tu le caches, que tu t'élèves comme une cathédrale. Les ombres mènent le bal sur tes pensées, celles qui éclipsent le chemin traversé. Les heures s'effondrent quand tu ne peux plus battre les fois qui font que ton cœur éclate. Et si on ne peut plus s'élever, je ne serai qu'une aile qui peut t'aider à voler. Je ne sais plus t'aider. Mais tu ne me laisses pas entrer dans ton château de sable. Les murs suissent pour se détruire à la moindre rafale. Mais je sais qu'au fond tu le caches, que tu t'élèves comme une cathédrale. Chasser les orages, je perds le sens de ton plus grand voyage.
Cœur de pirate et sa chanson Château de sable.
En santé mentale, le gouvernement fédéral déploie de nouveaux outils pour soutenir les Canadiens, comme nous le rapporte le média étudiant, l'étudiant outaouais du 4 janvier. Face à une demande toujours croissante, Ottawa mise désormais sur des services numériques simplifiés et des lignes d'intervention d'urgence accessibles en tout temps. L'objectif est de réduire les barrières financières et géographiques qui freinent souvent l'accès aux soins. Si ces initiatives sont évaluées pour leur rapidité d'exécution, les intervenants sur le terrain rappellent qu'elles doivent impérativement s'accompagner d'investissements durables dans les services de proximité pour répondre réellement à la détresse psychologique actuelle. Prendre soin de sa santé mentale de façon proactive, c'est le pari que de la clinique Espace Santé à Granby qui propose une approche multidisciplinaire innovante. Ça sort donc du Granby Express du 3 janvier. Plutôt que d'attendre la crise, l'établissement mise sur la collaboration entre psychologues, kinésiologues et travailleurs sociaux sous un même toit. L'objectif est simple, décloisonner les soins pour offrir un accompagnement global qui lie le corps et l'esprit. Dans un contexte où l'accès aux services reste un défi, cette initiative privée cherche à outiller les citoyens avant que les problèmes ne s'aggravent, prouvant que la prévention est la clé d'un réseau plus sain. La ville de Saint-Eustache fait preuve de générosité envers l'inclusion. C'est dans l'éveil du 1er janvier. Elle vient d'annoncer la remise d'une bourse de 5 000 $ à l'organisme La Libellule qui soutient les adultes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Cette somme provient du prix à part entière, récemment décerné à la Ville par l'Office des personnes handicapées du Québec. Pour le maire Marc Lemar, ce geste réaffirme la volonté de la municipalité de soutenir le projet, un travail pour tous qui offre des emplois valorisants et adaptés au sein même de la communauté eustachoise. Un nouveau mot que je ne connaissais pas pour Saint-Eustache. Et puis le devoir du 3 janvier, en ce début d'année, le rituel des résolutions peut rapidement passer de la motivation à la pression. On en parle beaucoup depuis le début de cette émission. Bien, selon des experts de l'Université McGill, la comparaison sur les réseaux sociaux crée souvent des attentes irréalistes, transformant nos bilans en source de stress ou en baisse de l'estime de soi. Eh bien, Vincent Paquin, chercheur en psychiatrie, rappelle que ce que nous voyons en ligne est une mise en scène, plus souvent qu'autrement, du succès des autres sans l'envers du décor. Je vous rappelle que souvent les trucs sont photoshopés et ce qui a l'air trop beau pour être vrai, ça l'est. Alors, pour éviter de vous décourager, le mot d'ordre et le réalisme, plutôt que des objectifs vagues, fixez-vous des défis précis et atteignable. Surtout, faites preuve de bienveillance. L'amélioration de soi n'est pas une course. Il est tout à fait permis de se sentir déjà comblé avec ce que l'on a. Si cette période de l'année est difficile pour vous, n'hésitez pas à contacter des ressources comme Télécoute ou Jeunesse J'écoute. Alors, des numéros de téléphone, Jeunesse J'écoute, 1-800-668-6868. Tel jeune, 1-800-263-2266. Télécoute, 1-833-326-8837.
¿Cuánto puede salvarte una canción escrita del efímero arte en esta alma chiquita? Es un don de sirenas del sonido devoto, pero no ahorra las penas en este corazón roto. Las canciones son bellas, apaciguar heridas, pero nunca son ellas milagros salvavidas. Deja que te revele, que denuncie el delito, que mi corazón duele, que mi corazón duele, que mi corazón duele. Aunque suene bonito. Son bellas, apaciguan heridas, pero nunca son ellas milagros salvavidas. Deja que te revele.
Fait que là, on a placé une annonce sur le site de rencontre JALF. Ça, c'est une plateforme québécoise dédiée aux fantasmes sexuels. Bon, l'annonce proposait les services de ma femme endormie, s'inspirant de celles placées par Dominique Pilicot sur le site de rencontre Coco. Dans un monde idéal, il n'y aurait personne qui aurait répondu à cette annonce-là. Malheureusement, la réalité fut nettement plus dégueulasse. Accrochez-vous.
Fait que ça te dérange pas, là, le fait qu'elle dorme, là, c'est correct?
Non, non plus, absolument pas, je vais m'occuper d'elle.
Bon. Alors, on vient d'entendre la bande-annonce du plus récent documentaire d'Hugo Meunier. Alors, imaginez donc une annonce publiée sur un site de rencontre proposant de coucher avec une femme inconsciente. En moins de 2 semaines, 100 hommes ont répondu présents. C'est le point de départ glaçant du documentaire « 100 hommes prêts à coucher avec une femme endormie ». Et pour en discuter, nous recevons le journaliste qui a mené cette enquête pour Urbania, Hugo Meunier. Bonjour, Hugo.
Salut.
Bonne année. Bienvenue à l'émission.
Bien, merci. Bonne année aussi.
Ben écoute, on va commencer. Ton enquête fait écho à l'affaire, évidemment, des viols de Mazan en France. Pourquoi c'était nécessaire de tester ce scénario-là ici au Québec?
Parce que quand ce procès-là a eu son aboutissement, je me souviens, j'ai été marqué, bon, comme tout le monde, j'ai suivi ce procès-là. Je me souviens que Gisèle Pélicot, donc la victime, est sortie du palais de justice en disant « c'était l'arbre qui cachait la forêt », tout ça. Et moi, j'ai été...
Je t'interromps, mais quelle femme incroyable!
Ben quand même, je pense que quel courage surtout.
Quel courage,
parce
ouais,
que d'avoir... t'allais à visage dévoilé tout le long, elle s'est pas défilée et ça devait être extrêmement pénible, non seulement ce qu'elle a vécu, mais aussi le procès de confronter ces hommes-là.
Ah donc toi ça t'a parlé là.
Ben c'est aussi ces gars-là, c'était nos voisins, c'était des gens que je croise à tous les jours, c'était pas l'espèce de d'image un peu caricaturale que tu te fais de l'agresseur dans une ruelle, c'était vraiment monsieur tout le monde. Et ça m'a marqué aussi. Et je me suis demandé si, écoute, cette histoire-là s'est passée dans une bourgade avec peu d'habitants perdus dans le sud de la France. Je me suis demandé si, dans une grosse ville comme Montréal, je reproduisais à peu près mot pour mot la même annonce sur un site. Pas le même site, mais un site un peu coquin là, à Montréal, si j'allais avoir du succès. Et très honnêtement, je m'attendais à rien. Et je me disais, bon, les gens ont été conscientisés par ce procès-là, j'ose espérer. Ça a tellement fait de bruit dans les médias. Mais à ma plus grande stupéfaction, ça a mordu rapidement et intensément.
Tu as publié ça sur une annonce sur JALF. C'est quoi ce site? Parce que moi, j'avoue, je connaissais pas ça.
Non, ça, c'est un site, mettons... le site est correct. T'sais, c'est un site pour libertins. Donc, il y a beaucoup de rencontres coquines. T'sais, des couples qui cherchent à faire des expériences avec une troisième personne.
Entre adultes consentants.
Entre adultes consentement. Et j'ai pas le choix de donner le bénéfice du doute au site qui, après ça, ont fait un mea culpa après notre enquête. Je pense qu'il y avait peut-être sous-estimé l'ampleur des dégueulasseries qui pouvaient se passer sur leur site. Mais ils ont été proactifs, donc je ne peux pas leur pitcher des tomates. Mais ne serait-ce qu'un site comme ça, ça existe, c'est très populaire au Québec, à Montréal, pour des rencontres entre adultes consentants. Un peu ce que Dominique Pélicot a fait en France, il était sur un site qui s'appelle Coco, qui est un petit peu plus tordu que le site, un site comme JALF, mais quand même, c'est un site pour des rencontres libertines. Donc, c'est de même que lui vendait ça au début, et c'est de même que moi, je l'ai vendu au début, comme une expérience sexuelle.
Bon, avant, parce que là, tu l'as mentionné, puis ça fait partie du documentaire, mais d'abord, bon, il y a eu une réaction de JALF, mais quelle était, toi, ta réaction en voyant le nombre de réponses grimper à plus de 100 là, en si peu de temps? On parle d'une semaine, là?
Oui, c'est bon, c'est juste... Désolé du cliché, là, mais j'ai perdu mes petites lunettes roses. Moi, je vis dans un monde de licornes. Je pense que Montréal, c'est le dernier rempart contre ces histoires-là. J'ai une fille de 13 ans et je me dis quelle chance elle a de grandir à Montréal, au Québec, dans un endroit très progressiste où tu peux marcher en sortant d'un bar aux petites heures sans te faire écœurer. Et je suis un peu tombé sur le cul parce que ça a été rapide. Je pense que... Les les demandes, les offres, les propositions rentraient pendant que j'étais en train de d'écrire à ma collègue, parce qu'on est deux là-dedans avec Chloé Giroux, la Réal. Fait que j'étais en train de lui écrire. J'ai eu déjà deux réponses après 3 minutes et ça continue à rentrer. Je pense qu'en dedans de 48 heures, j'en avais comme 100 quelques et ça arrêtait. C'était sans arrêt. Donc, j'ai été dégoûté par cette... Et les gens posaient absolument aucune question. Je comprends que ces gens-là, si je les confrontais, ils me diraient, ils se dédouaneraient en disant c'est un jeu, on pensait que c'était consentant, mais jamais le consentement a été question. Je pense que ça a été sur les doigts d'une main, les gens qui ont demandé si ma fausse femme virtuelle, en fait, qui a été créée par l'intelligence artificielle, était consentante.
Wow! Maintenant, le site a réagi.
Ouais.
Ça a pris combien de temps?
À peu près deux... l'annonce a resté quand même 2 semaines, je pense, pendant un bon petit bout. Moi, je l'alimentais. Je partais en vacances, donc j'essaie de... Les gars étaient pressés, excessivement pressés. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué aussi. Donc, ces gars-là, quand ils m'écrivaient, c'était tout de suite. Là, ils étaient prêts à se déplacer puis venir chez nous. Ils me demandaient si elle dormait. Là, je leur disais non, c'est pas aujourd'hui. Nous autres, on voulait les confronter. Je disais, on va faire ça à un moment donné, je vous reviens. Ils réécrivent. Là, je leur disais, tu sais, écrivez-moi pas, je vais vous écrire. Et 2 minutes, écoute, des fois 2 heures après, est-ce que c'est le moment? Donc, ça a duré quand même 2 semaines à peu près. Et à un moment donné, ben j'avais plus accès au site. Donc, je n'étais plus capable de rentrer dans mon profil, dans mon faux profil. Et j'en ai essayé d'en créer 2-3 autres. Ça n'a pas marché. Et j'ai appris par la suite que le site nous avait flagué en bon français. Donc, on ne pouvait plus y retourner. On était bannis. Et j'ai eu au moins la bonne nouvelle d'apprendre qu'il y a plusieurs des gars qui avaient répondu à mon annonce, qui ont aussi été bannis de ce site-là. Donc, c'est peut-être un coup d'épée dans l'eau, mais au moins, ils ont montré une bonne volonté de vouloir faire un petit ménage.
Ça a quand même pris 2 semaines.
Wow.
Le documentaire traite donc de soumission chimique et de sexe sans consentement. Est-ce que les réponses, on vient de le dire, mais quand même, est-ce qu'il y avait quand même quelque chose de nuancé? Est-ce qu'ils savaient que c'était un acte criminel?
C'est une excellente question. Ça, c'est une question qui me hante présentement. Parce que j'ai fait ce documentaire-là avec une jeune femme de 20... Je pense que Chloé a 23-24 ans.
Ah, ouais.
Et je pense qu'on n'avait pas le même regard sur cette histoire-là. Honnêtement, c'est dégueulasse, mais j'étais peut-être moins choqué par le côté, très frontal des demandes et tout ça. Parce que moi, je restais flou. Évidemment, je disais pas « Venez violer ma femme endormie ». Je disais « Ma femme est endormie, on a un fantasme de la prendre pendant qu'elle dort ». À peu près ce que Dominique Pélicot en France a fait. Mais après ça, dans les communications, c'est là que ça devenait intéressant. Moi, je discutais avec ces gars-là pour voir un peu. J'étais très, très explicite sur le fait que elle ne se réveillera pas, parce que les gars me demandaient souvent « Qu'est-ce qui arrive si elle se réveille? » Je dis « Elle se réveillera pas. » Oui, mais avec comment je suis amanché, elle va se réveiller. C'était pire que ça. Là. J'essaie d'être, d'être sobre, mais disons que j'ai reçu beaucoup de photos non sollicitées rapidement. Et les gars donc étaient quand même inquiets de savoir si elle se réveillait. Je leur disais « Je m'organise pour qu'elle ne se réveille pas. » Donc, c'était assez clair de ce bord-là. Et les gars, ça leur dérangeait pas. Et c'est tout le long, les gars, ça leur dérangeait pas. Et moi, je me disais, oui, mais peut-être qu'ils pensent que c'est un jeu. Et Chloé, qui était avec moi, disait, écoute, c'est dégueulasse. Ces gars-là s'en sacrent. Et puis, le fantasme aussi d'une femme endormie a quelque chose de tordu en soi.
Écoute, moi, j'avoue que j'ai beaucoup aimé la façon que tu as fait ce documentaire-là. Parce que tu fais partie du documentaire et tes réactions, parce que ce que tu nous dis là, il y en a de tes réactions dans le documentaire.
Ouais.
On voit que tu es vraiment dégoûté par ce que tu vois.
Ouais,
c'est important pour toi en tant qu'homme de clairement laisser entendre tes sentiments vis-à-vis de tout ça?
Je pense qu'on est rendu à une période où on doit faire partie de la solution, puis un peu sauter dans le train. Je pense que les gars ont été passifs longtemps. Moi, le premier, tu sais, j'ai déjà eu des discussions de chambre d'hockey souvent, j'étais peut-être pas assez sensibilisé à ce que les femmes vivent. Moi, j'ai jamais été agressé de ma vie, j'ai jamais été micro-agressé, je me suis jamais fait 4 calés sur la rue. Et là, tu réalises en parlant avec des femmes que c'est arrivé à pratiquement tout le monde à divers degrés. Juste exemple concret, à un moment donné, c'était un 5 à 7 au bureau et on venait juste de finir ce documentaire-là et on en discutait un peu. C'était au bureau et là, il y a une de nos collègues qui est allée chercher de la bière au dépanneur. Et écoute, ça s'est passé cet été, là. Là, il est juste allé chercher de la bière et en sortant, il y a quelqu'un qui tu sais, la fille a 23 ans, Charlotte, il a bloqué la porte avec son pied puis il a dit, écoute, si tu me fais un beau sourire, je te laisse sortir. Mais c'est ça, moi, ça m'arrive pas, ces affaires-là. Je suis dans une bulle, je vis pas avec cette réalité-là. Donc, mes réactions, je trouve que c'est important de les laisser. Puis c'est important que les gars aussi commencent à arrêter de se sentir pas concernés par tout ça. Parce que ça nous concerne, c'est toutes les femmes qui nous entourent. Et on pourrait être plus choqués par ce qui se passe. Autant par des cas extrêmes comme Pélico en France que des petites agressions ordinaires ici qui se passent à tous les jours sous nos yeux souvent. Puis on regarde, on fait rien. Donc ça, c'est une façon un peu de m'impliquer.
Le documentaire va être présenté sur Savoir, qui inclut donc des analyses d'experts et d'expertes. Mm-hmm. On parle de Laurence Desjardins. Qu'est-ce que ces regards extérieurs-là apporte de plus au constat initial?
Beaucoup. Parce que sinon, on reste dans la chronique, mm-hmm. puis dans les impressions personnelles. Moi, je ne suis pas un expert. Donc, ça m'a vraiment aidé, justement. Je le mentionnais tantôt. Moi, je banalisais peut-être un peu le côté femme endormie. C'est peut-être un vrai fantasme, puis chacun ses fantasmes rendus là. Mais Laurence Desjardins, sexologue, disait c'est un fantasme de soumission et de power trip, puis de puissance. Donc, il y a quelque chose de très tordu juste dans la nature d'un tel fantasme. Et il y a un autre expert à qui on a parlé.
Oui, Sonny Carpentier.
Aussi, qui parlait un peu de l'espèce de côté dans la société patriarcale dans laquelle on vit, qui m'a un peu ouvert les yeux aussi à ce que je racontais là, un petit peu plus tôt sur le fait qu'il faut que nous autres, si on fasse notre part. Puis c'est vrai que tout a été construit pour protéger ces gars-là, les peines bonbons et tout ça. Donc, j'ai trouvé ça quand même très intéressant. Et même l'autre monsieur à qui on a parlé, qui est un expert, qui travaille pour un organisme d'aide pour venir en aide aux hommes, bien, c'est intéressant aussi son point de vue sur cette question-là en disant qu'on est tellement rendu creux dans la pornographie, dans l'accès facile à des fantasmes sur Internet que un homme, une femme, c'est plus quelque chose qui est excitant. Moi, quand j'étais jeune, on n'avait rien. On avait Bleu Nuit, puis on avait une revue des fois qui traînait quelque part. Mais aujourd'hui, on est tellement rendu creux dans ces fantasmes-là sur Internet avec l'accès et tout ça. Fait que peut-être qu'on veut tout le temps avoir le petit trip, l'espèce d'adrénaline de plus, puis on est rendu à fantasmer sur une femme sans défense qui dort. Et c'est quand même très problématique.
Il y avait même une enquête là, qui avait été menée par des journalistes du Journal de Montréal hein, sur le site Pornhub qui est ici à Montréal. Puis ouais. Le nombre de trucs pornographiques qu'on peut voir là-dessus qui, justement, dépassent notre entendement.
Oui, c'est la plus grande hypocrisie. Je veux dire, tout le monde en consomme de la pornographie. Ça passe beaucoup par ces sites-là qui sont très, 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 très populaires. Mais finalement, on en parle peu. C'est quand même assez tabou. Moi, j'ai des enfants, j'essaye du bout des lèvres des fois de jaser de ça avec eux autres. Mais tu sais, je pense qu'on a beaucoup à faire aussi pour démystifier ce qui se passe sur nos écrans.
Ah, j'ai ma colle maintenant, ma petite question au col. C'est un documentaire de 20 minutes, donc, qui est une production originale d'Urbania. L'objectif, c'est quoi? Choquer ou sensibiliser ou provoquer?
Ben, me faire recevoir ici puis en jaser.
Moi, j'adore!
C'est quand même ça. Mais
on veut provoquer un dialogue, là.
Ben, vraiment. Puis j'ai réussi, tu sais, on l'a sorti, là, c'est une deuxième sortie qu'on fait pour la télévision. Donc, moi, si ça peut créer des conversations, on m'en a beaucoup parlé aussi. Évidemment, je suis pas naïf, je suis un cynique, moi, de nature, et je pense que je redéposerai la même annonce demain matin puis j'aurai autant de succès. Malheureusement, mais tu sais, si ça peut sensibiliser une couple de personnes, c'est déjà ça de gagner.
Je vais t'amener sur un sujet qui est relié. TVA, fait que sa série Indéfendable, justement, va aborder le sujet à la rentrée parce qu'on a vu là, ouais. la finale. Qu'est-ce que tu penses d'aborder aussi cette question-là de cette façon-là?
Il y a beaucoup de gens qui... Aujourd'hui, les nouvelles sont bloquées depuis quoi maintenant? 2 ans sur les réseaux sociaux, sur Meta et tout ça, depuis 2023.
Tout ce que c'est de la fake news, oui.
Bon, donc, tu sais, si c'est rendu que la fiction s'en empare pour en parler puis pour l'aborder, ces thématiques-là, puis sensibiliser, c'est des émissions qui cartonnent, qui tirent des fois à un million de personnes. Si tu as 1 million de personnes qui trouvent que ça n'a pas de maudit bon sens, ce qui se passe là, ben peut-être que ça va faire en sorte que si ces gens-là voient une annonce ou un projet ou un fantasme du genre, ben ils vont se braquer puis ils vont dire est-ce que... Parce que quelques hommes quand même, il faut le dire, qui ont répondu à mon annonce, qui ont dit est-ce qu'elle est consentante? Donc, c'est juste ça, dans le fond. Si, pourquoi pas passer par la fiction rendue là? Moi, j'ai absolument rien contre.
De toute façon, avec Maud Guérin, ça va être très bon, on est certain. Hugo, vraiment, là, merci beaucoup d'être venu parler de ce documentaire-là. Moi, je trouve que ça... C'est choquant.
Oui.
Puis... Puis il faut le regarder. Surtout les gars, là, regardez ça, ça va peut-être vous aider à comprendre des choses.
Ça commence l'année raide. Merci de m'avoir dérouillé de mes vacances.
Moi, il y a toujours des bons moments pour parler des choses importantes.
Oui, oui, c'est ça.
Même après un réveillon. Merci beaucoup.
C'est ça.
La chanson « Soleil » de Clopelgag.
Mathieu, je viens de recevoir des photos de mes amis en France parce qu'il neige présentement sur Paris.
Ah, les chanceux!
Bon, on parle de traces de neige. Eh bien, les trains prennent du retard, 10 minutes de retard. Alors, pour ceux qui se plaignent que le REM, quand il fait une grosse tempête, a des difficultés, ben voilà. Quand on se regarde, on se désole. Quand on se compare, on se console. Je vais vous parler de l'émission qui s'appelle « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » que j'ai le grand privilège d'animer ici à Canal M, qui est une émission et surtout aussi une balado-diffusion. On reprend l'antenne donc pour 2026 et on commence avec un segment qui va s'appeler « Transcontinent queer ». On va parler donc des activités queer, des activités des personnes de la diversité sexuelle et de genre d'un bout à l'autre du pays. Et on va aussi recevoir une personne militante de l'association L'Autre Cercle en France, M. Anne, qui va nous parler de l'importance de reconnaître et de accueillir dans des zones bienveillantes les personnes de la diversité. Et on aura notre segment Culture Queer. On reçoit Nour Simon, auteuriste très intéressant, donc ce segment. Je vous remercie tout le monde d'avoir été là. Merci à Mathieu Tessier qui assurait la régie aujourd'hui, la mise en onde. Merci à Hélène Denis qui sera de retour demain. Et je m'appelle Denis Martin Chabot. Passez une excellente journée à notre antenne.